promesse de l'aube, nous retrouvons, comme tous les jeudis, les nouveaux panoramas qui remontent le temps et scandent votre matinée de poésie, d'histoire de l'art et de morceaux sans âge. Ce matin, j'aimerais vous raconter une histoire de celle qui commence par « Il était une fois », un conte pour adultes où les personnages jouent à cache-cache avec leur nombril. Il était une fois, une enfant, qui voulant pénétrer le sexe de son origine, bascula en dedans d'elle-même par le truchement d'un miroir qui fit apparaître un lapin blanc. L'animal aux yeux roses la conduisit dans un monde de papier, de planches, de bulles à l'énergie sérielle, de canons de beauté vinyle faisant de corps pleins et solides, des trames et défaisant les coordonnées de l'individu. Dans les strips parus en bande, on rencontre une narration linéaire, mais peu de femmes dans l'Olympe des super-héros. L'invisibilité du deuxième sexe, à l'exception notable de Wonder Woman, l'étonne. Quand les hommes s'enflamment ou se pétrifient, les femmes, moulées dans des costumes hyper sexy, genre « Regarde mon joli petit cul », sont télépathes, des écrans protecteurs qui éloignent le danger sans s'y confronter. Les comics aux gens virils postulent l'affrontement entre les forces du bien et du mal, horizon du monde manichéen et brutal, duquel la jeune fille constate la super absence des super-héroïnes. Le lapin blanc montre à Gousset à la patte, la guide dans le détail des adaptations et des cases parfaitement circonscrites, d'où elle aimerait briser les quasi-monopoles comme les trop faciles récréations de l'âme. Entre les super-héros patriotiques, les animaux anthropomorphes et les fictions satiriques qui n'ont de cesse de jouer avec la logique, la jeune fille s'interroge sur la voie du sexe féminin, ses parodies, et apprend contre soi que le désir se constitue dans les arts comme dans la rue, en double asymétrique. Comme chaque jeudi, je vous propose une chronique qui se joue des mythologies, un article de presse, une photographie de vacances, des objets de consommation, des fibres optiques, une grammaire africaine, de l'infraordinaire, des jartels affriolants, des colifichets, des rebuts, des continents perdus, un catalogue de matériaux qui interroge la vie moderne, sans tête de chapitre. Aujourd'hui, nous passerons à la moulinette ce qui fait actualité et fait les représentations collectives, en quête de perfection, d'amour et de sentiments, comme si quelques lettres bien trouvées permettaient de donner la clé de l'univers.
Revision.
Ton corps est ma chose, il m'appartient. Je le découpe, le grossis, le cadre, le glorifie, le rapetisse, le torture, le loue, le blâme, l'industrialise, le commercialise. Il est l'objet de mes désirs, il est à ma disposition, je peux l'exploser et l'exposer à ma guise. Lu dans une vignette qu'on apprenait aux adolescentes que leur peau pouvait être dangereuse pour elles-mêmes, toujours scandaleuse. La jeune fille gravit un escalier infini où s'architecture le vide. Il y a beaucoup à montrer, mais peu à entendre. Des monstres invisibles tapis dans la nuit s'offrent comme la réverbération de son corps se creuse du sexe à la bouche. Derrière chaque porte moulée de tableaux vivants, elle découvre que les producteurs d'images sont avant tout des hommes. Ils mettent en scène le féminin, scénarisant sa nudité, la pillant en spectacle ou en récit. Et c'est une tâche infinie que d'amasser toutes les images où l'on voit apparaître une femme nue, des marginalias du bas Moyen-Âge, en passant par les chambres noires ou la peinture toute époque confondue. Et comment Vénus, de chair et de sang, devint une pute. Peinture classique. Déjeuner sur l'herbe, d'abord intitulé Le Bain, puis la partie carrée. Exposée pour la première fois au Salon des Refusés en 1863. Ambivalence. Deux images incompatibles réunies en une seule. Cliché de la représentation de deux odalisques dans un décor champêtre. Une image renvoyant une image renvoyant une image. Manet inscrit la scène dans un contexte réaliste. Les dandies appartiennent au monde du peintre et du spectateur. Ce sont eux qui jouissent. Leurs vêtements sombres et impeccables tranchent avec l'immoralité supposée des femmes. Lolita. Lumière de ma vie, feu de mes reins, mon péché, mon âme. Lolita. Le bout de la langue fait trois petits pas le long du palais pour taper à trois reprises contre les dents. Lolita. Le matin, elle était l'eau, simplement l'eau, avec son mètre 46 et son unique chaussette. Elle était Lola en pantalon, elle était Dolly à l'école, elle était Dolores sur les pointillés, mais dans mes bras, elle était toujours Lolita. Un panier renversé symbolise la perte de l'innocence. Les fruits comme les coquilles d'huîtres réputées aphrodisiaques évoquent par métaphore un lien seulement érotique entre les personnages, lien qui passe par le sexe de la femme. Grand trou noir, face cachée du monde, nébuleuse de la création, tabou merveilleux, image inversée de l'enfer, origine du tout, réceptacle de fantasmes angoissés, démons issus de l'imaginaire des hommes, de leur frayeur, face à leur propre altérité, qu'ils cherchent à dompter, cavité au seuil de laquelle l'œil se pétrifie, puisqu'il n'y a rien à voir et tout à imaginer. Sa traversée physique et intellectuelle s'avère périlleuse. Le peintre décide de sa mise à nu, en fait l'origine du monde. La nudité interpelle, non pas parce qu'elle est plastique, mais parce qu'elle renvoie à un univers mystérieux. Et cette nudité est exposée dans des cadres différents, affirme que le contexte finit par devenir prétexte. On s'extasie devant les Vénus de papier, pourvu qu'elles le restent. Les Vénus quotidiennes qui s'exposent lors des villégiatures balnéaires sont déchues de leur statut. Il est dit que la nudité féminine doit rester idéale, la perte de l'individualité qui traverse les visages et les corps accrochés aux panneaux de co caractérise un type d'espace privilégié où vendre sur le corps des femmes des produits ménagers comme des voitures tunées fait norme. La jeune fille ouvre la 9e porte. Elle y voit une scène qui pourrait figurer dans un film français. Le genre de film où l'on parle beaucoup et où on cherche l'amour. Un homme se repaît de ses propres hallucinations. Il suit une inconnue dans la rue. Aimantation de dos, tête comprise, danse crânienne, matière charnelle anonyme. Suivi 6 minutes 42 secondes le long d'un faubourg avant de bifurquer dans une ruelle solitaire rendue à son étrangeté. Métaphore du corps dans la ville soumis au désir. Dans les dédales de bulles, la jeune fille n'est suivie par personne. Se perdre, produire et contempler la perte du corps, du moi, son égarement, son évanescence. Son visage n'appartient pas à son corps n'a plus de visage. Il est support fictionnel, il n'est pas le point focal où l'identité se rassemble, où manifester ce qu'on paraît être. Il est l'image du conte, et les contes sont moraux. Dans cette histoire matinale pour adultes, il est question d'assurer et de prouver que le corps est capable de ça, se multiplier, se disséminer, devenir anonyme, étrange et étranger. Prouver qu'il peut exister autrement que comme chair lourde, réceptacle pour nos organes fixes. C'était les nouveaux panoramas. Nous sommes toujours sur Radio Panique. Il est 8h07. Vous aurez certainement reconnu entre mes lignes l'Incipit de Lolita, un chef-d'œuvre de Nabokov, et nous avons écouté Nocturne, un morceau de Mark Lanegan, une pépite de timbre d'outre-tombe, profond comme un abîme, grave comme une marche funèbre from Seattle, portée par l'écho de basses caverneuses, de guitares écorchées et de synthés polaires. Mark Lanegan se réinvente en crooner new wave sur l'album Gargoyle, ou Gargouille en français, édité chez Heavenly Records cette année. Marseille m'attend jeudi prochain. Les nouveaux panoramas seront donc de retour dans 2 semaines. Belle journée à vous tous.